On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre, pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent, comme nous sommes des étrangers, il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi, Nous Toutes 01 appelle à marcher dans les rues de Bourg-en-Bresse pour alerter sur les violences sexistes et sexuelles et réclamer plus de moyens. Les assos Putain de guerrières, Stop aux violences et Entraide et le Secours populaire français sont aussi mobilisés. Nous les avons rencontrés. On vous emmène visiter le nouveau bâtiment des Glycines. Il abrite maintenant l'association du Plateau à Bourg-en-Bresse. Et votre actualité en bref, c'est tout de suite.
Bourg en bref.
Les laboratoires d'analyse médicale fermés au public. Des laboratoires en grève ce lundi 14 à l'appel de l'Alliance de la biologie médicale, leur syndicat. Un mouvement en réponse à l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce dernier prévoit une baisse de 250 millions d'euros par an du budget des actes de biologie. Et ceci jusqu'en 2026. Une baisse à la suite des moyens supplémentaires accordés pendant la crise du Covid. Au moins 3 jours de grève sont prévus. Seules les urgences sont assurées. Rouler à 30 km/h en ville, c'est la proposition de la ville de Bourg-en-Bresse. La mairie invite les Burgiennes et Burgiens à participer à une consultation en ligne. Un formulaire est aussi disponible à l'accueil de la mairie. Concrètement, les grands boulevards et certaines rues resteraient à 50 km/h, le centre-ville à 20 ou 30 km/h selon les rues, et la vitesse à 30 km/h serait généralisée aux quartiers résidentiels. Avec cette mesure, la ville souhaite mieux protéger les piétons et cyclistes ou encore diminuer les nuisances sonores. La consultation est ouverte jusqu'au 5 décembre. C'est le moment de rassembler vos boîtes à chaussures. Des boîtes à décorer et à remplir pour offrir un cadeau de Noël à des personnes en situation de précarité. Vous pouvez y mettre des friandises et autres douceurs non périssables, un livre ou encore des vêtements comme un bonnet. N'oubliez pas de prévoir un petit mot ou une petite carte. Il faut aussi marquer sur la boîte à qui est destiné ce cadeau, un homme ou une femme, un enfant, une famille ou même un animal. Le dépôt des boîtes commence ce samedi 19 novembre et se terminera le 3 décembre. Et il y a différents points de collecte dans tout le département, à Bourg et dans les environs. Vous pourrez les déposer à la tannerie, à la maison de la culture et de la citoyenneté ou encore dans les mairies d'Attigna, Malafreta, Béligneux et Montrevel. Retrouvez la liste complète des lieux de collecte sur la page Facebook l'atelier éco-citoyen. Citoyen, C-I-T-O-Y-A-I-N. L'année dernière, plus de 3000 boîtes ont été distribuées. Une exposition dédiée à des femmes résistantes dans l'Ain. 11 figures féminines engagées dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale sur le département de l'Ain. Portraits et témoignages. C'est jusqu'au 15 décembre à la MJC de Bourg-en-Bresse, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. C'est en partenariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain. Échanger et débattre autour de l'actualité, la société. Agora politique populaire, c'est le nouveau temps proposé par le bar associatif Le Temps des Noyaux. Ça se passe tous les mardis soirs de 19h à 22h, rue du Docteur Hébrard à Bourg. Les thèmes sont choisis par les participants. Ce mardi 15 novembre, le thème est politisé, suivi le 22 novembre par manger et le 29 novembre s'informer. Pour y assister, il faut adhérer à prix libre à l'association. Donner une seconde vie à un t-shirt ou à un jean. France Nature Environnement de l'Ain vous propose de les transformer en tawashi, une éponge lavable originaire du Japon. Ils vous donneront aussi des trucs et astuces pour garder vos vêtements plus longtemps. L'atelier commence à 16h ce samedi 19 novembre dans les locaux de FNE 1 au 44 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. La participation est gratuite mais vous pouvez faire un don du montant de votre choix pour soutenir l'association. Cet atelier est dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Valoriser et diffuser votre CV. Radio B et l'ADEA, centre de formation, vous accompagnent. Vous découvrirez le CV numérique et enregistrerez une partie sonore à joindre à vos candidatures. Pour en savoir plus, assistez à la réunion d'information ce vendredi 18 novembre à 9h30 au point Info Emploi, centre social Pont des Chèvres, 41 place Alphonse Dupont à Bourg-en-Bresse. Ce parcours entièrement gratuit est en partenariat avec les points Info Emploi de Grand Bourg Agglomération.
L'invité de Radio B.
Faire cesser les violences sexistes et sexuelles. C'est le but commun de plusieurs associations du département engagées pour dénoncer, sensibiliser à ces violences et accompagner les victimes. À l'appel du collectif féministe national Nous Toutes, elles unissent leurs voix le samedi 19 novembre pour marcher dans les rues de Bourg-en-Bresse pour, je cite, « que nos vies ne soient plus classées sans suite ». Une marche en vue du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Bonjour Jade de Nous Toutes 01.
Justine de Nous Toutes 01.
Christelle Gay, présidente de l'association des Putains de Guerrières 01.
Bonjour Jacques Demars, Secours Populaire, donc bénévole Secours Populaire, et puis du réseau Vive 01.
Donc du coup, nous Toutes 01, on est plutôt une association militante, c'est-à-dire qu'on va dénoncer, on va faire de la prévention, de la sensibilisation pour élever le niveau de conscience de la population. Et à côté, on a les associations Putain de Guerrières, Secours Populaire 01 et Save qui sont, eux, des acteurs de terrain qui font de l'accompagnement aux victimes, ce que Nous Toutes ne fait pas parce qu'on n'est pas formés pour faire ça. On se complète en fait, toutes ces associations se complètent bien.
Quels sont les objectifs de cette marche ?
Alors déjà, on a des revendications qui sont déjà au niveau national, donc pour commencer. Donc on demande l'augmentation du budget consacré à la lutte contre les violences. On a des revendications aussi de prévention, d'accompagnement, pour que toutes les victimes soient prises en charge correctement. On a des revendications aussi sur le renforcement de l'appareil législatif. Avec la modification de la définition du viol dans le code pénal, parce que c'est pas la bonne définition en fait. Et puis aussi avec l'adoption d'une loi cadre qui pourrait être adoptée contre toutes les violences sexistes et sexuelles. On a aussi une demande d'organisation des institutions de recherche pour avoir des chiffres vraiment plus parlants. Et du coup, on demanderait une création d'une structure et de suivi et d'évaluation des politiques publiques de lutte contre les violences de genre et d'un observatoire de recherche et de collecte de données. Voilà, parce qu'en fait, les chiffres, on a du mal à avoir des chiffres réels. Sur le département, par exemple, on n'a rien de mis en place, en fait. Enfin, c'est très difficile d'avoir de vrais chiffres.
Alors donc, après, il en existait des organismes, mais ils ont été supprimés par le président Macron, qui a fait sa grande cause du quinquennat, les violences faites aux femmes, en fermant certains organismes comme l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Il y en a beaucoup qui ont été fermés. Donc effectivement, si on les compte plus, ben, ça fait peut-être moins moche dans le paysage.
Au niveau des changements, Christelle Gay, présidente de Putain de Guerrières 01, l'observe, c'est en cours. Des lois ont été votées, elle prévoit un certain nombre de choses, mais elle le précise, il faudrait que ces mesures soient mises en place. Des lois promulguées à la suite du Grenelle de novembre 2019 pour lutter contre les violences conjugales. Il y a celle du 28 décembre 2019, elle permet de prononcer l'ordonnance de protection dans un délai plus court, 6 jours à partir du moment où l'audience est fixée. La requête peut être faite par une association, un avocat ou la victime elle-même. Cette même loi a mis en place le bracelet anti-rapprochement, un périmètre à ne pas dépasser fixé par le juge et s'il ne le respecte pas, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Au sujet du bracelet anti-rapprochement, Christelle Gay dénonce des aberrations.
Quand vous voyez qu'aujourd'hui, pour mettre un bracelet anti-rapprochement à un homme violent, il faut son consentement. Maintenant, cette loi a été modifiée et le juge peut intervenir, mais c'est encore plus long, la procédure est encore plus longue, et sans être sûr que le mari violent ou l'ex-conjoint ait ce fameux bracelet.
Autre loi, celle du 30 juillet 2020, elle permet au médecin de déroger au secret médical et dire au procureur, sans l'accord de la victime, s'il estime que sa patiente est sous l'emprise d'un conjoint violent. Elle reconnaît aussi le suicide forcé, c'est-à-dire que le harcèlement moral a poussé la victime à mettre fin à ses jours. Et elle permet enfin la suspension de l'exercice de l'autorité parentale si le conjoint a fait une tentative d'homicide de l'autre conjoint. Dans l'Ain, 3 associations sont des acteurs majeurs de lutte contre les violences et de l'accompagnement des victimes. Save, Stop aux violences et Entraide, le Secours populaire français et Putain de guerrière. Elles constituent le réseau VIF, violence intrafamiliale de l'Ain.
On a rencontré Save 01, qui est excusé aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, mais qui est représenté donc, par Marion. Donc Save est composé de professionnels bénévoles. Donc on a des psys, on a des avocats, on a on peut offrir des cours de yoga, de réflexologie. On a aussi des étudiants en droit qui nous aident. On a quand même quelques professionnels de santé qui nous viennent en aide. Le Secours populaire nous aide aussi énormément pour reloger les femmes, pour nous accompagner sur de l'alimentaire, sur des vêtements, sur tout ce qu'il nous faut pour reloger les femmes et les enfants. Les bénévoles qui nous accompagnent, parce qu'il y a une grosse équipe dans le Secours populaire. Et puis, on s'est associés tous les trois pour créer ce qu'on a appelé donc le réseau VIF 01, VIF Violence Intrafamiliale de l'Ain. Et c'est vrai que on est en train de travailler tous les trois et ça avance beaucoup. On commence à avoir des contacts fréquents avec le commissariat, avec les différents organismes sur le territoire qui travaillent aussi pour lutter contre ces violences. Et bien, on s'associe à eux parce que nous, on ne se substitue à personne. Le but, ce serait même qu'on n'existe pas, tant qu'à faire.
Quel bilan un peu de la situation des violences conjugales dans l'Ain, là, novembre 2022?
Je dirais que c'est toujours compliqué, puisque, par exemple, Save, cette année, donc avec le réseau, on a suivi déjà 100 victimes. On a fait 100 accompagnements. Donc ça, c'est hors toutes les institutions qui existent. Donc pour une petite association comme la nôtre, suivre 100 victimes dans l'Ain, je vous assure que c'est compliqué.
Le réseau Violence Intrafamiliale de l'Ain veut aussi dénoncer le manque de protection des enfants.
Beaucoup, beaucoup de femmes se retrouvent désenfantées. Et ça, c'est catastrophique. Ce sont des femmes qui ont subi des violences, des enfants qui ont vu des choses absolument atroces. Donc, on récupère une maman avec des enfants qui sont traumatisés, qui ont été détruits pendant toutes ces années, et on les met dans un système judiciaire qui les broie encore plus et qui, du coup, leur enlève leurs enfants. On se retrouve... avec une justice qui va préférer finalement confier les enfants à monsieur parce que monsieur, lui, il a gardé sa famille, monsieur, il a des amis, monsieur, il a un métier, il a de l'argent, il a les moyens, il a la maison, parce que bien souvent, ce sont ces dames qui doivent partir. Et donc, la justice estime que c'est vrai que l'enfant, il va être mieux avec un mari violent que dans un foyer pour femmes qui, en plus, pendant que j'y suis, n'est pas adapté.
Dès qu'un enfant dénonce une violence, on a 3 cas là cette semaine, du papa, il témoigne même qu'il ne veut pas aller chez le papa ou la maman, parce qu'on ne fait pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui sont victimes. Le juge ne va pas écouter l'enfant si ça ne va pas dans son sens, et ça vraiment, on a 2 jugements là qui sont choquants. Il va traduire que, en fin de compte, si l'enfant dit ça, c'est parce qu'il est monté par l'autre parent. C'est juste pas acceptable. Enfin, c'est incroyable. L'enfant, il dit « j'ai peur de mon beau-père ». Oui, mais c'est la maman qui le monte. C'est plus acceptable ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice, au niveau de la ZE aussi, puisque souvent, ils prennent parti pour l'auteur. Et on ne comprend pas. Et ils détruisent souvent les mamans, parce que nous, justement, on accompagne ces mamans. On a aujourd'hui des éléments qui peuvent nous permettre d'affirmer qu'il y a de la violence faite par ces personnes sur les femmes victimes de violence. Et oui, les femmes victimes de violence sont aussi suivies par des psychologues, parce que vu ce qu'elles subissent, elles ont aussi des médicaments, et ça ne mérite pas qu'on enlève leurs enfants et qu'elles les mettent en danger, parce que l'enfant, il a au moins sa maman aujourd'hui, et on va le mettre dans une famille d'accueil, et puis encore une autre famille d'accueil, et là, on a des témoignages d'enfants qui disent « j'aurais jamais dû parler des violences de mon papa », quoi. C'est dramatique qu'on en arrive là.
Et vous avez beaucoup de personnes qui vous contactent, qui viennent vous voir au Secours populaire pour parler de ces violences ?
Alors, de plus en plus. Alors, en plus, il y a maintenant le réseau qui est connu, encore à midi. Puis nous, on n'a pas de... Ça ne s'arrête pas à 18h le soir, et surtout pas le week-end, puisque le 1er novembre, je suis resté pendant plus d'une heure avec une victime. Voilà, donc nous, c'est tout le temps, ça peut être à 1h du matin. Et ça sort un peu du département, ce qu'on disait récemment, puisque maintenant, comme on commence à être connu, ben, les personnes, est-ce que vous pouvez, je peux vous envoyer une copine, ou etc. quoi.
On a parlé de la question donc, des enfants qui assistent à ces violences conjugales dans le couple. Quelles autres difficultés peuvent rencontrer les femmes, les hommes victimes de violences conjugales ?
Ben, le logement. Parce que déjà, il faudrait que le choix du logement soit le choix de la victime, à savoir si elle reste chez elle ou si elle veut partir. Et aujourd'hui, quand une femme part en urgence de chez elle, on a de grosses difficultés à trouver un logement décent. Parce qu'effectivement, on nous propose des logements dans des hôtels miteux, au milieu de populations qui n'ont rien à voir avec les violences conjugales. On met des femmes brisées et des enfants brisés au milieu de logements totalement inadaptés et non sécurisés. Même quand on a des logements dans l'Ain qui sont dédiés pour les femmes victimes de violences, donc ça c'est plutôt bien, bah, finalement on s'aperçoit que tout le quartier connaît le logement. Et quand vous vous rendez là-bas, tout le monde peut vous dire « bah oui, c'est au 3e étage, 4e porte ». Et ça c'est pas normal. Il faut vraiment des logements sécurisés et dédiés uniquement aux femmes victimes de violences conjugales et pour qu'elles soient quand même dans un autre milieu que là où on les emmène aujourd'hui, dans vraiment des hôtels miteux. Il n'y a pas d'autre mot.
Je dirais même pire que plus grave, puisque récemment, donc on a une personne qui est victime des violences de son conjoint, puisqu'elle est en instance de divorce, qui a déposé 5 plaintes, donc déjà 3 classées sans suite, hein, sachant qu'il y a des ITT emmenés par les pompiers, etc. Elle a été évacuée effectivement sur un hôtel miteux sur Bourg-en-Bresse. La violence étant telle, parce que voilà, ils étaient dérangés par des cris, de taper sur leur porte de chambre, etc. Elle est avec un enfant de 5 ans, préfère repartir chez l'auteur. 3 jours après, la décision a été prise de lui enlever son enfant parce qu'elle a mis son enfant en danger, alors qu'on n'a pas été capable de la sécuriser dans un logement sécur, quoi. Et le pire, c'est qu'elle a eu, quelques jours après, l'ordonnance de protection et le juge n'en a pas tenu compte. Voilà, donc c'est catastrophique ce qui se passe au niveau de la justice et des dégâts qui sont faits sur ces femmes et ces enfants.
Vous parliez donc que vous rencontriez les forces de l'ordre, police, gendarmerie. Donc des personnels doivent être formés pour accueillir ces victimes. On en est où dans l'Ain ?
C'est la question qu'on va poser jeudi prochain au DDSP, hein, puisque c'est un engagement.
DDSP ?
Donc le directeur de la police. Hein, donc c'est la question, puisque c'est notre première rencontre, ça a été effectivement de parler. L'engagement qu'il a pris, c'est effectivement de former son personnel. Donc il y a encore des choses à faire. On va voir avec lui jeudi, puisqu'il va nous recevoir jeudi, voir un peu l'avancée. Il y a eu des choses qui ont avancé, hein, au niveau de l'accueil. Alors ce qu'on voudrait, c'est que ce qu'il a mis en place pour notre collectif, nos associations, ça soit pour toutes les femmes. En clair, pour nous, on a un accueil privilégié, puisqu'on a remonté quand même des effets qui n'allait pas. On voudrait que toutes les femmes qui poussent la porte du commissariat, qui viennent déposer plainte, soient accueillies de la même façon que quand elles sont accompagnées par nous. Clairement, aujourd'hui, il ne doit pas y avoir cette différence. On voudrait qu'il y ait une identification qui soit par le code couleur, plutôt que d'être au commissariat à sonner en disant « je viens pour elle parce que je suis victime, parce que tout le monde est autour ». Voilà, donc il y a un code couleur qui existe aujourd'hui. Et puis surtout qu'elles soient accueillies par des OPJ qui soient formées. Et puis qu'elles n'aient pas les fameuses réflexions dont on entend ou cette remise en cause, mais madame, on ne parle qu'une grosse gifle, quoi. Enfin, ouais, ça c'est plus acceptable. Et c'est des choses qui sont passées au commissariat de Bourg il y a quelques temps, où vous étiez habillé comment ? Enfin, c'est juste pas acceptable. Voilà.
Ou alors, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que monsieur a beaucoup pleuré, monsieur regrette. Pensez à vos enfants. Réfléchissez, moi je serai vous, je ne porterai pas plainte. Ça, c'est ce qu'on entend aussi très souvent. Je pense que monsieur a compris. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de la procédure ? Ça, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est criminel. C'est hors la loi, c'est interdit. Donc, et malheureusement, on l'entend encore très, très souvent.
Pour terminer, quelque chose à ajouter ?
Chaque année, on compte au minimum une centaine de femmes victimes de féminicides, mais on oublie aussi que chaque année, il y a plus de 200 femmes qui sont poussées au suicide suite aux violences conjugales. Ça, on n'en parle pas non plus, mais ça nous fait quand même plus de 300 femmes qui décèdent chaque année à cause de maltraitance, à cause de violences. On a un président qui en a fait sa grande cause du quinquennat. On voit que depuis, il n'y a pas eu vraiment de grands changements, de grands effets de communication, effectivement. Mais sur le terrain, nous, les associations, qui vraiment sommes la rencontre de ces femmes, qui sommes sur le terrain, on ne voit pas le changement, non. Ni dans les mentalités, ni dans les façons de faire.
Christelle Gay, présidente de l'association Putain de Guerrières 01, et Jacques Demars du Secours Populaire des associations du réseau Violence Intrafamiliale de l'Ain. La marche Nous Toutes, c'est ce samedi le 19 novembre à Bourg-en-Bresse. Départ à 14h de la place Blériot en face de la médiathèque Césaire. Elle est ouverte à tous. À la fin de la marche, chacune des victimes de féminicides de l'année 2022 sera évoquée. Au 14 novembre, il y a eu 118 féminicides en France depuis le début de l'année, selon le collectif Nous Toutes National. Pour rappel, les personnes victimes de violences peuvent contacter gratuitement et anonymement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le 39-19. À noter ce vendredi 18 novembre, le premier forum sur les violences conjugales et intrafamiliales, un événement réservé aux bénévoles associatifs pour les sensibiliser et leur faire connaître les différentes structures spécialisées sur cette thématique. C'est de 16h à 19h à la salle de quartier Louis Blériot, rue Louis Blériot à Bourg. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le vendredi 25 novembre. Un collectif de femmes et des structures locales organisent une soirée spéciale au Conservatoire d'agglomération à Bourg-en-Bresse. Le documentaire « Nourrir l'espoir, ne pas subir » qui donne la parole à des femmes de la communauté d'Emmaüs sera projeté. Son réalisateur et une militante féministe, membre du collectif Solidarité Migrants de l'Ain, seront nos invités. Soyez à l'écoute lundi prochain, le 21 à 18h sur Radio B 90 FM.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous nous emmenez visiter le nouveau bâtiment des Glycines vers la gare.
Au cœur du parc de la Madeleine, un tout nouveau lieu abrite maintenant l'association du Plateau à Bourg-en-Bresse. Ce projet immobilier de la ville de Bourg permet de réhabiliter un ancien bâtiment et de créer du lien entre les habitants du quartier. C'est le cabinet d'architectes lyonnais Silt qui a réhabilité cet ancien hôpital psychiatrique. Il a fallu environ 2 ans de travaux. Ils ont débuté en octobre 2020. Du désamiantage, du déplombage, de l'isolation, il a fallu de nombreuses étapes avant de rendre ce bâtiment comme neuf avec un budget de 4 millions d'euros, notamment de la ville de Bourg-en-Bresse. Au XIVe siècle, le lieu accueille des lépreux, puis devient un hospice au XIXe. Plus tard, il abrite le CPA, le centre psychothérapique de l'Ain, et il ferme ses portes au début des années 2000. Nathalie Pourchou est responsable du centre social Plateau-Gare, elle nous fait visiter.
Non, alors, c'est tout là, mais il faut juste regarder, c'est-à-dire que la particularité, c'est que, voilà, il faut croiser, et quand on croise, c'est tout bon.
Un grand hall qui veut être suffisamment assez large pour avoir du croisement de public et d'activité, donc avec une volonté des architectes d'avoir gardé toute la forme des voûtes qui étaient extérieures à l'intérieur, avec une prédominance dans tout le bâtiment sur le bois. Donc vous allez le retrouver autant dans le parquet que dans les murs et que jusqu'en haut aux fibres de bois pour tout ce qui est plateau. Et donc là c'est le système, voilà, l'idée que ça soit un grand couloir qui dessert les salles d'activité et qui fasse un flux de circulation.
Donc là, c'est le centre de loisirs.
Voilà, donc là, des petits casiers qui nous ont été proposés dans le cadre des architectes. Petits casiers où les enfants peuvent mettre leurs chaussures, petits porte-manteaux, les affaires. Et ensuite, ça leur permet d'aller dans les salles d'activité où là, eh ben, ils ont des chaussons. Voilà, et ils peuvent accéder. Donc là, ils sont en pleine activité. Donc il y a un coin dortoir que vous ne voyez pas qui est derrière, avec une cloison amovible qui nous permet d'avoir une grande salle ou une plus petite. Et puis les enfants qui reviennent du repas et qui du coup sont ici jusqu'à 14h30, qui attaquent les activités.
Et donc le centre de loisirs, c'est nouveau, vous ne occupiez pas de ça avant dans l'association ?
Non, alors on l'a pris en portage en janvier 2022. Avant, il était porté par l'UFCV, qui était un de nos anciens partenaires, enfin qui était un de nos partenaires. Et du coup, on avait travaillé pour faire en sorte que ce lieu soit mutualisé, c'est-à-dire qu'on avait deux activités distinctes, mais qui permettaient de mutualiser des locaux. Donc le projet a été travaillé avec la ville dans ce sens-là, pour nous mettre un espace à disposition et permettre autant l'activité, on va dire, ado-adulte, atelier parents-enfants, mais aussi l'activité du centre de loisirs.
Et tu comment j'en fais après manger les chambres ?
Je m'appelle Brigitte Durand et je suis animatrice sur l'accueil.
Et donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on fait de l'animation. Donc, on est avec les enfants. Je suis sur la tranche d'âge 3-6 ans. Ce matin, on a fait une petite activité manuelle. Donc là, c'est un temps calme, moment de la sieste pour les plus petits. Là, je vais prendre mon groupe et on va profiter. On va sortir, il fait beau. On va aller au parc jouer ensemble. Comme ça, ils vont pouvoir courir, s'extérioriser, crier, voilà, pour pouvoir faire du bruit.
Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux locaux ?
Très joli. Très joli. Après, voilà, il faut voir sur du long terme, mais c'est vrai qu'ils sont très jolis.
Et donc avant, vous pouviez aller dehors, à l'extérieur ?
Alors oui, on avait un espace, mais c'était du macadam, voilà. Donc, mais là, voilà, c'est agréable de pouvoir sortir, d'avoir un espace personnel, parce que là, c'est vrai que le petit espace qu'on a là n'est que pour les enfants, alors que là où on était avant, on partageait avec les lycéens quand ils venaient sur le gymnase. Là, on est vraiment, je ne dirais pas seul au monde, mais voilà, on a vraiment un espace pour les enfants qui est sécurisé, qui est quand même très, très joli aussi.
Là, on a le centre de loisirs qui fonctionne sous notre fonctionnement à nous, mais l'idée, c'est d'accueillir d'autres associations, soit pour des réunions ponctuelles, soit pour des choses qui peuvent être plus ancrées dans le temps.
Et au niveau des bureaux, il y a des bureaux à l'étage qui sont libres, ouais, pour accueillir ces associations ?
Voilà, donc toutes les salles sont mutualisées. C'est la vraie volonté. Donc là, la salle que je vous ai montrée où il y a les enfants, eh ben, si vous venez demain, c'est une salle où il y aura de la gym. Donc on pousse le matériel, on déplace et du coup, il y a des tapis de gym et puis il y a du matériel de gym, donc pour les seniors. Vous venez le mardi, ben, c'est la chorale. Donc voilà, c'est des salles dessus. Et après, au premier étage, on a deux salles qui font aussi des salles d'activité pour les enfants, mais qui sont aussi des salles d'activité pour les adultes, des bureaux partagés et ensuite une autre grande salle associative à l'étage.
Et donc ça fait quoi d'arriver dans ces nouveaux locaux alors ? Comment vous sentez ?
Alors, ça fait bizarre parce qu'on avait travaillé que sur des plans. Donc, quand vous voyez en réel, eh ben, du coup, pour les bénévoles qui sont engagés dans ce projet et pour les salariés, eh ben, on a l'impression d'être un peu des chevilles ouvrières dans ce travail. Et puis, du coup, on se rend surtout compte qu'il y a des vraies compétences dans les métiers parce que nous, on avait plutôt exprimé des besoins liés à l'usage de nos activités. Et du coup, les architectes, eux, ils ont mis un petit peu en forme tout ça. Et du coup, quand on a vu ce qu'ils ont été capables de nous proposer, voilà, les gens étaient assez surpris et un peu d'émotion. Voilà, on se dit, ouais, chouette, c'est des chouettes locaux. Après, avec un esprit bois qui est très présent et qui fait qu'on s'y sent bien, c'est serein, c'est très chaleureux. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un projet qui date de 12 ans et qui nous a demandé beaucoup, beaucoup d'investissements, hein, autant pour l'équipe des salariés que les bénévoles, parce qu'il a fallu beaucoup travaillé, on a fait deux déménagements, enfin, voilà, on a fait ça tout seul pour arriver à tenir dans les temps, mais quand on voit le résultat final, ouais, non, on est très très content et on est fiers de pouvoir exploiter ce bâtiment et on espère qu'il aura aussi de la vie avec d'autres associations qui vont pouvoir bénéficier de tout ça.
Alors bonjour, je m'appelle Catherine Chauveau, je suis habitante du quartier du Plateau, bénévole à l'association depuis 2008. Je fais partie du CA, rédaction Petit Journal, et je suis trésorière adjointe.
Et elle habite le quartier depuis ?
Depuis ma naissance.
Alors, on ne dira pas ton âge, mais ça fait un certain nombre d'années.
Non, on a vécu, alors on était une grande famille, on a vécu, mes parents ont vécu 56 ans sur le plateau. Donc voilà, je connais les coins, les recoins, et voilà, c'est une véritable famille, ce quartier. Ça a toujours été... Alors on dit dissocié du centre-ville, mais non, parce qu'il faut faire un relais, mais c'était quand même un quartier familial, et qu'il en reste quand même, parce qu'il y a quand même des commerces qui font... Donc le fait d'avoir déménagé sur une nouvelle structure permet d'avoir une étendue plus importante pour toucher d'autres quartiers et surtout aussi attirer le centre-ville.
Si on devait résumer les grands objectifs de ce lieu, ce serait lesquels ?
Eh bien, on va partir sur le fait, c'est quoi la volonté que l'association elle a, c'est d'être un lieu ouvert à tous. Donc ça, c'est la vraie volonté, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé qu'à certains, c'est vraiment ouvert à tous. Le côté social et culturel, c'est le côté social dans le fait, le société, et pas dans le social comme certains peuvent le connoter. C'est qu'ici, vous pouvez trouver autant des enfants que des ados, des adultes, des seniors, des personnes en situation de handicap. Un lieu d'échange, un lieu d'engagement, parce que la vraie force de l'association aujourd'hui, et elle le démontre depuis des années, c'est qu'on a de la chance d'avoir un vrai réseau de bénévoles, donc des gens qui sont engagés dans l'association et qui donnent de leur temps pour venir. Donc vous allez retrouver des bénévoles qui, comme Catherine, vont venir pour de la compta, il y en a qui vont venir pour de l'activité, il y en a qui vont venir parce qu'ils ont une compétence dans, par exemple, l'informatique, il y en a qui vont venir parce qu'ils ont juste envie de retrouver les autres, et donc c'est aussi ce lieu qui permet ça, c'est-à-dire que leur place... Elle est essentielle parce qu'un centre social sans bénévoles, ce n'est pas un centre social. Et nous, les salariés, on tisse, c'est-à-dire qu'on utilise à un moment donné nos compétences au service de la population et on accompagne les bénévoles à mettre des choses en place qui correspondent à des besoins, des initiatives ou des problèmes qu'ils peuvent avoir à un certain moment dans leur vie ou dans leur parcours.
Partager ses objectifs.
Tout à fait. C'est pas anodin, non, parce que le lien, il se tisse. Alors, on est bénévole. Après, il y a des bénévoles qui viennent ponctuellement. Moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça parle de mon quartier. Donc, c'est vrai que je suis assez souvent ici. Je peux rester 8 jours sans venir, mais il y a un lien qui se tisse avec les bénévoles et c'est ce qui fait la force de l'association. Hein. On n'est pas étrangères les unes aux autres. Ouais.
Donc, les activités proposées ici... Tous les habitants de Bourg ont le droit de venir. Comment ça se passe?
Alors souvent, on est quand même lié à la proximité. C'est-à-dire que souvent, les gens ils vont rechercher une structure qui ne nécessite pas un moyen de locomotion ou un fonctionnement différent. Après, on est ouvert à tous.
Le centre social du Plateau est tenu par 9 salariés et une quarantaine de bénévoles aident l'association. Retrouvez leurs activités sur leur site www.asso-leplateau.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90 FM. Belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. En fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si... On faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.